Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 15h30 et toute l'équipe se joint à moi pour vous accueillir. Et aujourd'hui, c'est un thème explosif que nous allons traiter. Source de conflit pour près de 15% des Français, l'héritage est pourvu d'une forte charge symbolique. Au-delà des idées reçues, l'argent ne cristallise pas à lui seul les problématiques et désaccords qui peuvent découler de cette étape douloureuse. La transmission exprime en effet les liens affectifs et la place de chacun au sein de la famille. Alors qu'est-ce qui se joue derrière le partage des biens d'un parent? L'héritage peut-il être un fardeau? Comment des fratries en arrivent-elles à se déchirer parfois pour des biens dérisoire. On en parle aujourd'hui avec vous, bien sûr. Vos témoignages dans un instant. Aurélie qui nous racontera son histoire. Et puis Nicole Prieur qui est en ligne avec nous. Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et psychothérapeute et vous êtes auteur de l'ouvrage La famille, l'argent, l'amour aux éditions Albin Michel. C'est quoi une transmission réussie selon vous, Nicole Prieur?
J'ai envie de répondre par une phrase de René Char. Mmh. Ce poète disait qu'un héritage réussi, c'est lorsque l'on ne voit pas la main du défunt. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose qui se passe en grande douceur, en grande tranquillité, et quand on a pu réussir à se soulager et se libérer du poids de l'histoire de la famille. Parce que c'est cela qui pèse derrière les objets, derrière l'argent. C'est tous les règlements de compte suspendus, tous les contentieux qui ont été accumulés tout au long de notre vie familiale et qui vont se rejouer d'une manière souvent cruelle au moment du décès et de l'absence de l'un des parents.
Il en est un qui vous écoute et qui connaît bien ça, justement, c'est Maître Vincent Chauveau. Bonjour Maître, merci d'être avec nous.
Bonjour à vous, Flavie Flamand.
Vous êtes notaire, vous êtes président du premier réseau national de notaires, Notaire Office, fondateur du réseau Notaire au cœur des familles et auteur du premier jeu de société sur l'héritage. Alors ça c'est dingue parce qu'on peut jouer sur l'héritage, Mac à cette famille quand l'héritier devient un jeu d'enfant. D'ailleurs c'est marrant parce que on rit en fait en jouant à Mac à cette famille.
Disons que l'héritage, c'est un sujet tabou.
C'est vrai.
Je rebondirai sur ce qu'a dit votre psychologue. C'est que finalement, c'est les non-dits qui créent les blessures. Et il faut savoir s'exprimer de son vivant, expliquer, être pédagogique. Et finalement, la transmission se fait plus facilement, finalement, quand toutes les choses ont bien été mises à plat du vivant des donateurs, c'est-à-dire des personnes concernées. Et donc oui, le jeu est un outil pédagogique, est un sujet aussi humoristique. Parce que c'est fait avec une dimension de BD, un peu esprit famille Adams, et puis beaucoup d'humour et beaucoup de simplicité dans les termes. C'est-à-dire qu'on évite les mots barbares de notaire pour que tout le monde puisse se poser les bonnes questions. Et voilà. Donc j'ai beaucoup de grands-parents qui sont venus acheter le jeu dans la grande distribution pour jouer avec les petits-enfants. Étonnamment.
Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas d'ailleurs du vivant, bien ouais. Souvent. Et on reviendra sur les conséquences de ce silence, de cette chape de plomb autour du sujet de l'héritage. Aurélie est en ligne avec nous. Bonjour Aurélie.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous avez 59 ans, vous vivez à Paris, vous êtes décoratrice Aurélie. Et vous avez entendu les premiers mots de Nicole Prieur et de Maître Vincent Chauveau. Vous avez été privée justement d'informations et vous nous dites que ce n'est pas un déchirement, c'est un reniement.
Oui, je l'ai vécu comme ça.
Ouais, c'est-à-dire
Comme un abandon supplémentaire.
Ouais.
On avait déjà été un petit peu abandonnés, c'est-à-dire que assez jeune, notre maman, je pense, a pris ses distances avec son rôle de maman. Nous n'étions plus vraiment ses enfants. Nous étions des personnes qui participions à sa vie, avec des rôles attribués, avec des choses à dire ou à ne pas dire, et puis une certaine loi familiale. Et quand votre invité disait qu'il fallait peut-être oublier la main du défunt, elle est souvent bien présente et cruellement parfois.
Alors qu'est-ce que vous avez découvert vous justement?
J'ai découvert que notre maman avait été cohérente avec ses choix du passé, c'est-à-dire qu'elle avait souhaité préserver et qu'elle avait en tout cas dans ces dernières années pensé uniquement à notre beau-père et à ce que ce pauvre homme allait devenir lorsqu'elle ne serait plus là.
Donc au détriment de vous, ses enfants.
Oui, au détriment de nous, ne serait-ce qu'au niveau des souvenirs, des choses fortes et belles, qui, comme nous étions une famille qui avions quitté la Tunisie, nous avions beaucoup de souvenirs de notre papa, que nous n'avons plus.
Alors concrètement, c'est-à-dire que votre maman, lorsqu'elle est décédée il y a 10 ans, a fait de son mari,
de son quatrième mari,
ouais.
L'usufruitier de ce qui était ses possessions. Voilà, nous étions tous adultes, nous avions des vies, tout allait bien.
Oui, mais donc ça veut dire aussi que l'héritage de votre papa, est passé donc aux mains du quatrième mari de votre maman. Donc vous n'avez pas de souvenir de votre père, vous n'avez hérité de rien en fait pour l'instant.
On a hérité de très peu de choses de notre papa,
oui.
Puisque tout était dans la maison de maman, les meubles, les photos, les lettres, je sais pas, moi j'avais vu une carte d'étudiant de mon papa quand il avait 17 ans. Je la chérirais aujourd'hui, cette carte.
Ouais, je comprends. Donc ce sont des petits riens qui sont si importants et si signifiants. Vous voulez bien rester avec nous, Aurélie,
hein,
on va poursuivre notre conversation avec Nicole Prieur et avec Maître Vincent Chauveau. On est ensemble jusqu'à 15h30 sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
Ma très très chère maman m'avait toujours dit que sa bague de fiançailles serait pour moi, étant la première de ses petites filles. Nous étions très proches. Peu avant son décès, elle a voulu me la donner. J'ai refusé, désirant qu'elle l'ait jusqu'au bout. Faut-il préciser que ce souhait n'a jamais été réalisé par les tantes et ce sera un regret à tout jamais. On parle de l'héritage aujourd'hui jusqu'à 15h30 avec vous, vos réactions sur nos réseaux sociaux et nos invités que sont Nicole Prieur, qui est philosophe et psychothérapeute, Maître Vincent Chauveau, qui est notaire, et Aurélie, vous qui êtes en ligne avec nous et qui nous expliquez qu'au départ de votre maman, cet héritage n'a pas été un déchirement, mais un reniement, celui de votre mère vis-à-vis de vous, ses enfants, au profit donc de son quatrième mari. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'avez rien de votre papa, puisque c'est le quatrième mari de votre mère qui a hérité de l'ensemble des biens, mais jusqu'à une carte, hein, c'est ce que vous nous avez dit, de transport en commun, je ne sais plus, mais enfin, ou une carte postale, une carte d'étudiant qui appartenait à votre père. Et ça a une valeur inestimable pour vous, alors que ça n'en a aucune pour l'homme qui la possède aujourd'hui, évidemment.
Ben, je trouve merveilleux que vous ayez invité un notaire,
oui.
Parce que dans ces situations, un notaire, un psychologue, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ce sont des personnes de loi assermentées qui voit les grandes misères humaines.
Mais alors, vous, c'est le notaire qui vous a lu le testament,
Aurélie ? Alors en fait, nous étions réunis avec notre beau-père, on se tenait tous la main. La veille, il me téléphonait encore en pleurant, en me disant qu'il voulait m'adopter, parce que je pense qu'il avait très peur qu'on n'accepte pas les termes du testament.
D'accord.
Et le notaire a commencé je ne sais pas si ça peut s'appeler une cérémonie, en nous disant, écoutez, il faut que vous compreniez bien que ce sont là les volontés de votre maman. Donc nous, on s'est dit, oui, bien sûr, il a l'usufruit de tout, mais on va rester unis, on va continuer à s'aimer ou à faire semblant de s'aimer, parce que ce n'était pas non plus si simple, mais on va pas renier cet homme maintenant que maman n'est pas là.
Oui, bien sûr.
On va continuer notre chemin et puis on va tous, je ne sais pas, prendre ce qui est important pour nous, puisqu'il s'agissait moins d'argent que de choses.
Je comprends.
Bon, et puis ça a mis une petite semaine à éclater, et puis maintenant c'est terminé.
Alors, ça veut dire que vous n'avez plus aucun contact avec votre beau-père ?
Non.
D'accord. Qui donc, lui, a vécu sa vie après ?
Oui.
Et est-ce à dire qu'avec avec vos frères et sœurs, enfin, vous avez donc été obligé de faire une croix sur votre héritage?
On a fait une croix et puis c'était très vilain parce que finalement, maman a souhaité donner énormément de choses, un peu accessoires, mais en tout cas à l'aînée de nos filles.
Oui.
Rien aux enfants de mon frère.
C'est super dur.
Je me souviens de ma sœur qui est une fille adorable avec qui je m'entends parfaitement bien, qui a un petit peu souri tristement parce que maman donnait une table roulante à sa fille.
Ouais. Mais est-ce que vous avez le sentiment que justement votre mère s'est exprimée à travers ce testament,
oui,
comme elle l'a fait toujours dans sa vie, ou est-ce que ça a été une surprise ?
Non, ça n'a pas été une surprise.
Ok, donc c'était à l'image des relations qu'elle avait avec les uns et les autres, quoi.
Je pensais qu'il y aurait dans ce testament quelque chose de plus doux. D'assez honnête, mais de plus doux, de dire, écoutez mes enfants, vous êtes adultes, vous avez vos vies, mon mari et son avenir, c'est important pour nous. Pour moi, maintenant que je ne suis plus là, mais en tout cas, pendant que j'écris ces mots, c'est important. Je tiens à vous laisser des souvenirs, des legs qui vous viennent de votre papa.
Aurélie, est-ce que ça a changé votre regard sur la façon dont vous abordez l'héritage avec vos propres enfants ?
Alors, l'héritage, déjà, on en parle et je trouve que, en fait, ce qui est bien, c'est de donner les choses. Avec mon mari, on arrive à un moment de notre vie où on a fait beaucoup de choses. C'est super, on a voyagé, on a acheté, on a eu beaucoup de chance. Ça me fait tellement plaisir de leur donner maintenant aux enfants,
ouais,
de ne pas avoir, laisser flotter cette idée de « oui, bah, vous en profiterez quand on ne sera plus là
ouais. ».
Non. C'est maintenant.
Ouais, je comprends.
C'est maintenant que la montre, il faut la donner, que le buffet, il faut ne plus l'avoir chez soi en disant non mais chez toi ça va être génial si tu l'aimes et puis si tu l'aimes pas tu le vends. Enfin voilà, c'est maintenant qu'il faut donner aux enfants.
Je vous remercie beaucoup Aurélie, parce que c'était très éclairant. Votre témoignage, ça doit pas être toujours facile de revenir sur ces moments-là. Donc je vous remercie de nous avoir fait confiance.
Avec vous, j'y arrive.
Et puis, je vous souhaite, c'est gentil, je vous souhaite le meilleur à vous ainsi qu'à votre famille. Dans un instant, Maître Vincent Chevaux va nous permettre aussi de décrypter votre propre histoire, Aurélie, qui est celle de bien d'autres, évidemment, qui nous écoutent. Aurélie, je vous embrasse. Maître Vincent Chevaux, on se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, vous venez d'entendre le témoignage d'Aurélie assez édifiant sur l'héritage. Et bien évidemment, voilà un sujet qui provoque de nombreuses réactions. On a quand même le sentiment que l'héritage est bien souvent un champ de bataille. Maître Vincent Chevaux, vous avez entendu l'histoire d'Aurélie qui n'a rien de son père, puisque c'est le quatrième mari de sa femme qui a hérité donc de son épouse décédée il y a maintenant 10 ans. Aurélie, elle aurait voulu jusqu'à un objet insignifiant comme une carte d'étudiant de son propre père. On peut ne pas faire hériter directement ses enfants, Maître Vincent Chevaux ?
Alors, moi j'ai surtout entendu une grande blessure, en fait. Une grande,
oui,
blessure qui était déjà marquée du vivant de sa maman et qui s'est prolongée au-delà de sa vie, donc par le testament et le règlement de la succession, qui est... comme l'a bien dit mon confrère, l'ouverture du testament, l'expression de la volonté du défunt. Et c'est tout à fait réglementaire, c'est-à-dire que le code civil autorise le défunt à léguer l'usufruit au conjoint survivant. J'ai entendu parler d'un remariage. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour moi, sur le plan patrimonial, c'est juste retarder la jouissance complète de l'héritage. Après, Aurélie a bien souligné sur les aspects, en fait, comme on dit techniquement, extra-patrimoniaux. On parlait de souvenirs, de cartes, et ainsi de suite. Alors ça, sincèrement, c'est la chose la plus difficile, finalement. On est dans plutôt du chantage affectif plutôt que dans une réalité juridique. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir d'enfants d'une première union qui essayaient d'obtenir le crayon de leur père, et finalement, le second conjoint leur avait privé tous les souvenirs de leur père, et c'était une vengeance, quoi. C'était une vengeance d'une vie. Mais sur le plan, fondamentalement, sur le plan juridique, oui, sa maman pouvait librement disposer de l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance des biens, profiter des biens du vivant. Et au décès de son beau-père, eh bien, elle aura la pleine propriété de tous les biens.
Alors, d'accord, mais si... pour parler technique, hein, et bien comprendre.
Oui,
si son...
je suis clair.
Oui, vous l'êtes. Mais justement, si le beau-père d'Aurélie, si, apparemment d'ailleurs, est amené à se remarier, apparemment ça a été le cas, admettons qu'il ait des enfants. Est-ce que les enfants du beau-père d'Aurélie vont pouvoir hériter finalement de ce dont Aurélie aurait dû hériter ?
Non.
Ah, ok.
il a l'usufruit, c'est-à-dire qu'il a un droit d'usage.
Il a une jouissance.
Un droit d'usage, un droit de jouissance. Okay. Il n'a pas un droit de propriété.
Donc ça lui reviendra quoi qu'il arrive à Aurélie, même si.
C'est la pure théorie. Hein.
Oui, d'accord,
sur,
ok.
Ce qui est bien immobilier, oui. Sur les liquidités, s'il a tout consommé, ça va être difficile de récupérer ça. S'il a un patrimoine insuffisant, mais dans la rigueur du principe, elle récupérera l'intégralité de l'héritage. Mais la difficulté d'Aurélie, c'est que finalement, c'est plus les enfants qui héritent de leurs parents, ça passe aux petits-enfants.
Oui,
on saute des générations avec l'allongement de la vie.
Oui, c'est ça, c'est ça. On règle beaucoup de choses, Maître Vincent Chauveau, au moment de la rédaction de son testament. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Aurélie attendait peut-être une forme d'apaisement après des relations plus ou moins faciles avec sa maman. Et sa mère ne lui a pas fait ce cadeau en partant.
Mais en fait, c'est que le prolongement de sa vie. En fait, je pense qu'il y a malheureusement une honnêteté intellectuelle dans la démarche de sa maman, qui était peut-être cruelle de son vivant et qui était cruelle aussi peut-être au
moment de son décès.
Au décès, et ça, c'est dur. Et en fait, une succession ne se règle pas systématiquement avec un testament. Le code civil est très bien organisé. Quand on rentre dans le règlement de sa succession avec un testament, c'est qu'il y a une stratégie. C'est que c'est pensé, c'est réfléchi.
Oui, d'accord. Donc ça veut dire
c'est
que quoi qu'il arrive, c'est ce que j'allais dire. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a testament, c'est vraiment une volonté très nette de marquer les choses. C'est ça que vous nous dites.
Sauf dans le cas de sa maman. Alors là, je vais apaiser la relation. C'est que finalement, son beau-père, il aurait pu percevoir un quart du patrimoine de sa maman en pleine propriété. Et ce quart-là, il l'aurait jamais revu.
D'accord, ok.
Et sa maman, dans les testaments, apparemment, ce qui est dit, c'est qu'elle a dit non, votre beau-père n'aura aucun droit en propriété, il aura le droit qu'à la jouissance.
D'accord, ok.
Il sera protégé de son vivant, mais à la mort du beau-père, tout reviendra aux enfants biologiques. Et donc ça, c'est pour apaiser la souffrance de votre Aurélie, parce que je pense qu'il y a une volonté de protéger le beau-père, mais ne pas déshériter les enfants.
Alors c'est voilà, c'est une consolation, c'est ce que vous nous dites effectivement en tant que professionnel. Bien sûr, j'entends bien, c'est une consolation sincère. Nicole Prieur, quand on entend Aurélie, elle nous explique aussi que aujourd'hui, elle a marqué par ça, elle a décidé de parler davantage avec ses enfants de ce qui se passera le jour où elle ne sera plus là. Et d'ailleurs, elle veut même régler tout ça de son vivant. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces choses-là?
Ah, mais parce que l'argent dans la famille est tabou à tous les niveaux de l'existence de la famille. Même dès la constitution du couple, l'argent constitue quelque chose, un domaine très tabou. Et j'ai dû avoir l'occasion déjà de vous le dire, dans mes consultations avec mes patients, je peux connaître leur vie sexuelle avec tous les détails. La vie sexuelle peut s'exposer, on peut en parler, mais même dans nos consultations psy, les questions d'argent restent tabous. Il y a quelque chose de l'ordre de
l'argent est mort.
Intime, ouais. Qui effectivement fait qu'on ne le touche pas et on a une maladresse vis-à-vis de ce produit-là, si on peut dire. Hein. Mmh. Il y a une maladresse, on ne sait pas parler en famille, on ne sait pas parler d'argent parce qu'on a l'impression qu'on va tomber dans des comptes mesquins. Alors qu'au contraire, et ce que nous dit Aurélie est vraiment très intéressant, elle nous a mis en évidence qu'au lieu d'être dans une logique de règlement de comptes, hein, comme on peut l'être au moment de l'héritage, elle a réussi à solder ses comptes. C'est-à-dire qu'elle a accepté que ce que sa maman n'a pas pu lui donner de son vivant, elle n'a pas pu lui donner non plus après sa mort. Et c'est bien cela qui est difficile dans un héritage. C'est que la mort du parent ne nous permet plus d'attendre finalement ce que l'on avait besoin d'eux, ce que l'on attendait d'eux déjà de leur vivant.
Alors, on va faire un tour par l'information sur l'antenne d'RTL. On va se retrouver évidemment tout de suite avec Pierre qui nous écoute et qui a tant à nous dire. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci Alexandre de Saint-Aignan pour les informations. On vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actu. Quant à nous, évidemment, on poursuit notre conversation, pas toujours facile, hein, autour de l'héritage et de la succession. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On parle du testament aujourd'hui jusqu'à 15h30 avec vous, avec nos invités. Pierre qui va témoigner sur cette antenne. On se rend compte, Nicole Prieur, vous êtes philosophe et psychothérapeute, que ça tient à... Parfois, l'apaisement tient à un objet. une chaîne, une montre, un stylo, une carte étudiant, un vieux passeport. C'est fou comme l'objet devient symbolique de la relation.
Et oui, il devient non seulement symbolique du lien qui est perdu par la mort du parent, oui. Mais il devient symbolique aussi de tout ce qu'on attendait de ce parent-là. C'est-à-dire qu'en général, vous savez, dans une famille, ce qui rend douloureux, ce qui est douloureux, c'est tout ce que l'on n'a pas reçu. Et l'objet qui est présent atteste finalement que l'on attend encore quelque chose de ses parents et que l'on espère quand même qu'à travers cet objet, il puisse nous donner la reconnaissance dont on avait besoin, l'amour dont on avait besoin. On attend que cet objet finalement vienne réparer aussi tout ce que la présence du parent n'avait pas pu nous donner de son vivant. Donc il est investi cet objet non seulement du lien qui a existé, mais aussi on imagine qu'avec cette présence-là de cet objet-là, on va pouvoir réparer tout ce qu'on n'a pas reçu de nos parents.
Maître Vincent Chauveau, vous êtes notaire. Est-ce que ça se passe toujours mal? Parce que dans un instant, on va voir Pierre en ligne qui n'a plus de relation avec son frère. Est-ce qu'il y a des familles qui explosent sur l'autel d'un héritage?
Écoutez, moi, dans le cadre de mon métier, dans les murs de mon bureau, finalement, je vois rares sont les familles où tout se passe bien. Alors, il y a des familles qui disent, mais nous, il n'y a aucun souci avec l'argent, l'héritage, il n'y aura aucun souci. Et ça, c'est l'ouverture de la succession. Et puis, les jours passent, mais les semaines passent, les mois passent. Et alors là, on voit le vrai visage des gens. Voilà, on voit toutes les blessures de l'enfance, hein, comme disait votre psychothérapeute. Tous les non-dits qui ont été non exprimés, en fait. Voilà. Et alors, les jalousies d'enfance remontent, les querelles d'enfance, les... Tout remonte, en fait. Je trouve que la mort, finalement, c'est extrêmement violent sur le plan déjà de la perte de la personne, mais aussi dans les rapports entre les co-héritiers. Et finalement, les conflits de famille s'exposent très rarement en justice et ça se finit dans le bureau du notaire. C'est-à-dire, sur le plan patrimonial, on arrive quand même avec le temps. Le temps est un allié, en fait, dans le règlement d'un conflit de famille. Parfois, on a besoin de ce temps-là pour trouver une solution, une médiation. Et la médiation est très, très en vogue aujourd'hui dans le notariat, est très portée. Et ça se règle, ça finit par se régler.
Alors, Pierre nous rejoint. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour, Flavie.
Soyez le bienvenu. Vous avez 39 ans, vous vivez dans l'Ariège. Votre papa est décédé il y a 4 ans. Vous avez un frère plus âgé que vous qui, soudain, dites-vous, hein, a réalisé qu'il vous détestait depuis plus de 30 ans.
C'est exactement ça, voilà.
Racontez-nous.
Tout simplement, au décès de notre père, il y a 4 ans, on avait encore des contacts parce que lui, il s'occupait de la succession, comme il habitait là où habitait notre père et que moi, j'habitais à l'autre bout de la France. Voilà, on avait des relations via message pour régler tout ce qui était la succession. Mmh. Et tout se passait très bien, il n'y avait pas de soucis. Et une fois que la première partie de la succession a été passée, on y restait encore des appartements à vendre, en fait, donc ça se fait pas en 5 minutes. Et j'étais tout le temps en contact avec lui parce que voilà, moi j'avais besoin de la partie de la vente des appartements parce que j'étais dans une situation compliquée. Donc je l'ai un peu je lui demandais des nouvelles assez régulièrement et puis il me donnait de moins en moins de nouvelles, en fait. Voilà, il me répondait de moins en moins au texto et puis jusqu'au jour où il m'a envoyé un message très clair me précisant que j'avais toujours été le préféré de notre père, que ça l'avait toujours dérangé et que depuis que j'étais tout petit il m'en voulait pour ça. Voilà.
Comment avez-vous réagi?
Ça m'a fait mal. Ça m'a fait extrêmement mal parce que moi, malgré la différence d'âge, j'avais toujours aimé mon frère. Voilà, c'était mon frère. Et puis, depuis le décès de nos deux parents, c'est la seule personne qui me reste de
votre famille.
De lier, voilà, de la famille, ouais. Quoi. Et voilà, le fait qu'il me dise ça et qu'il ne veuille plus avoir de contact avec moi, ça m'a blessé profondément, quoi.
Donc, au début de la succession, tout se passait bien. Et puis, au fur et à mesure que les choses, effectivement, comme le disait il y a un instant Maître Vincent Chauveau, hein, quand vous êtes rentré plus en détail, vous vous êtes rendu compte tout à coup que, à la faveur d'un conflit, finalement, le conflit concernait, ce n'était pas que relationnel, mais ça concernait principalement l'héritage aussi. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez ou pas? Enfin, ce que vous vouliez, non pas dans l'héritage, hein, mais obtenir que les choses avancent?
Les choses ont avancé grâce à ma belle-mère, en fait. Donc, j'ai eu des nouvelles de cette partie-là de l'héritage via ma belle-mère qui ne parlait plus, elle, depuis 2 ans non plus.
Ouais.
Mais elle a fini par me répondre à mes textos et on a discuté, on a pu faire le point, quoi. C'est tout ce que je demandais, moi, en fait. Hein. Je ne demandais pas plus. Et voilà. Et mon frère, par contre, j'ai plus de nouvelles. J'ai voulu lui envoyer des messages. J'ai envoyé des messages pour son anniversaire. Il m'a pas répondu.
Il a disparu. Donc,
Il a disparu, voilà.
Bon, on se retrouve tout de suite hein, sur RTL.
Ouais.
RTL.
Flavie Flamand.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Merci de nous suivre. Aujourd'hui, on parle de l'héritage. Alors bon, c'est pas un sujet facile, hein, mais en même temps, quelque part, grâce à Nicole Prieur et à Maître Vincent Chauveau, on comprend l'intérêt de parler, communiquer, parler avant, et puis essayer ce qu'a tenté de faire Pierre, hein, de maintenir le lien pendant tout un temps, même si effectivement les choses ne sont pas faciles, puisque Pierre, aujourd'hui, vous n'avez plus aucune nouvelle de la seule personne qui reste de votre famille, qui est votre frère, puisque vous avez perdu donc vos deux parents. Nicole Prieur, c'est compliqué hein, parce que non seulement on perd ses parents, mais en plus de ça, on a le sentiment, c'est ce que je ressens dans ce que vous nous dites Pierre, on a le sentiment de perdre même le sens même de la famille.
Tout à fait, parce que la relation au frère ou à la fratrie, c'est vraiment la relation à notre histoire. C'est effectivement, ça nous enracine dans une histoire. Mais ce que nous explique Pierre, c'est vraiment une situation extrêmement douloureuse, mais qui est très significative de ce qui se passe dans la fratrie. C'est-à-dire qu'au moment de l'absence des parents, quand les parents disparaissent, il y a ce qu'on appelle un retour du refoulé. C'est-à-dire que toutes les blessures, toutes les jalousies, toutes les frustrations que l'on a pu avoir par rapport à l'autre frère, par rapport à la petite sœur, etc., le sentiment d'injustice, tout cela s'emmagasine dans notre inconscient et on a appelé ça une calculatrice inconsciente. C'est-à-dire que toutes les blessures que l'on ressent dans notre place par rapport aux autres frères ou aux autres sœurs sont mises un petit peu en sourdine, sont endormies pendant que les parents sont là, parce que les parents finalement arrivent à contrôler un petit peu, à maîtriser un petit peu ces pulsions-là. Et finalement, à la mort des parents, il y a le retour de toutes ces frustrations. Et il faut savoir que les relations, c'est pour ça quand vous parlez de parler, c'est vraiment indispensable. Parce que les souffrances liées au fraternel, liées aux frustrations et aux sentiments d'injustice dans le fraternel, perdurent à l'identique pendant extrêmement longtemps si on n'en parle pas.
Maître Vincent Chauveau, qu'est-ce que l'on peut dire à ceux qui nous écoutent pour protéger un maximum, finalement, les enfants, les héritiers, faire en sorte que les choses se passent au mieux? Parce que au-delà même d'un héritage, effectivement, d'un petit pécule ou d'une soupière de la grand-mère, bah, y a en fait toute la vie d'une famille, il y a toute une descendance qui peut exploser. C'est ça qui est fou.
Alors, pour éviter, il y a une solution, mais ça demande un courage. C'est ce qu'on appelle la donation, c'est-à-dire régler sa succession de son vivant.
De son vivant, oui.
Mais régler sa succession de son vivant, c'est aussi accepter la mort, c'est de se voir mortel et d'imaginer l'au-delà. Et quand on arrive à se projeter, c'est-à-dire être absent, c'est-à-dire que voir ses enfants, comment ils pourraient se comporter à l'absence des parents, eh bien, ça peut motiver justement l'acte de donation, on appelle les donations partage ou les donations entre vifs. Plus simplement...
Et pourquoi attendez, pardonnez-moi, maître, pardonnez-moi, je vous interromps, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça? Puisque vous dites que ça demande du courage. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est dire, bah voilà, quand je serai mort, ça ne nous fait pas mourir d'en parler.
Non, mais après la transformation chez le notaire, c'est l'acte de dépossession. C'est-à-dire que je passe ma vie à constituer un patrimoine, à construire une vie. Et parfois, ça donne du sens à cette vie-là. Et se dire, bah, ça y est, maintenant, j'arrive à 60, 65 ans, je dois penser à transmettre à mes enfants. Alors, il y en a qui ont cette dimension par rapport à la fiscalité, par rapport à l'État, pour optimiser la transmission. Mais au-delà de ça, c'est finalement oser affronter les vrais problèmes. Qui va recevoir l'appartement? Qui va recevoir les terres de famille? comment se gérera la vente de notre résidence principale. Mais avant même de donner, il faut toujours se poser la question, quels sont mes besoins à venir pour les 30 ans à venir? Si je transmets trop tôt, finalement, est-ce que je ne vais pas me déposséder trop tôt pour financer mon EHPAD? Voilà, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte.
Je pense que ce
qu'il faut renouer, c'est le dialogue, c'est d'en parler. Et les enfants, parfois refusent d'en parler. Ils disent aux parents, non, c'est bon, on verra ça plus tard, parce qu'ils ne veulent pas imaginer leurs parents morts.
Alors qu'en parler, ça ne fait pas mourir, hein, on est bien d'accord.
Oui, mais je pense que c'est toute la fragilité, comme j'entendais Mme Prieur parler de ça, c'est vraiment quand les enfants de 50 ans pleurent sur un cadeau qu'ils n'ont jamais eu, finalement on se rend compte qu'on reste toute sa vie enfant de ses parents. Et je dis toujours finalement qu'on est 10 ans, 15 ans, 50 ans, 80 ans, on est toujours orphelin de ses parents, quel que soit l'âge de ses parents. Et tout ressurgit. C'est étrange, mais bon, moi, je ne fais pas de la psychologie, je fais du droit, mais dans notre métier de notaire, on est obligé d'entendre tout ça et de prendre un temps d'écoute, forcément.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre, pour votre témoignage. Certains s'y retrouvent vraiment. Et on vous souhaite plein de bonnes choses, bien évidemment, et notamment trouver un métier, puisque visiblement, vous êtes en train de chercher un emploi. Qu'est-ce que vous cherchez ?
Là, plus précisément dans la logistique, en fait, en entreprise. Voilà.
Très bien. Et vous êtes dans l'Ariège, donc on nous appelle si on ne sait jamais. On fera passer le message.
Avec plaisir.
OK. Dans un instant, c'est Géraldine qui nous rejoint. Salut Pierre. Nous, on se retrouve tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Bon, alors, ça peut bien se passer quand même, hein, un héritage avec des conseils que vous nous donnez, Maître Vincent Chauveau, et vous, Nicole Prieur. Effectivement, je voudrais que l'on puisse, avant d'accueillir Géraldine, revenir sur le fait que d'aborder ces sujets du temps de notre vivant, c'est peut-être faire un cadeau à nos enfants que de les délester du poids du conflit.
Exactement. J'ai envie de dire, si vous voulez, je rejoins tout à fait Maître Chauveau, parce qu'effectivement, la donation, j'invite souvent mes patients à penser à une donation. C'est vraiment l'occasion de mettre en ordre justement tous ces contentieux, de se donner les chances de les lever. Et puis alors, je crois qu'il faut un petit peu transformer notre vision, parce que justement, c'est vrai que ça nous confronte à notre mort, à la perspective de notre finitude, mais en même temps, penser à ce qu'on va laisser derrière nous, à ce que l'on va transmettre, ça redonne du sens à notre existence, et quelque part, ça peut justement apaiser nos angoisses existentielles. Il y a une vie, il y aura une vie derrière nous, il y aura une vie pour nos enfants, grâce à ce qu'on va leur laisser, et ça, ce n'est pas mal.
Et puis cette idée, effectivement, du lien qu'il faut sûrement essayer de protéger. Géraldine nous rejoint. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous avez 40 ans, vous vivez en Ille-et-Vilaine, vous êtes secrétaire administrative et vous ne rencontrez aucun problème. Votre papa est malheureusement décédé il y a un an, votre grand-mère il y a 4 mois, une autre grand-mère il y a 15 jours et tout se passe bien.
Ben oui, on a cette chance.
Grâce à eux, justement ?
Oui, grâce à l'éducation qu'on a reçue.
Vous êtes 4 frères et sœurs, hein ?
Oui, c'est ça, j'ai 2 frères et une sœur.
Ouais.
Et puis, ben nous, aucun souci. C'est vrai que j'ai mon petit frère qui a pas mal de temps et qui a pris en charge toutes les affaires juridiques, on va dire. Donc, c'est lui qui nous tient informés. Et puis ça se fait tout seul et il n'y a aucun souci, quoi.
Du temps du vivant de votre père, de votre grand-mère ou de votre autre grand-mère, vous étiez déjà une famille confiante, unie ?
Du côté de maman, oui. Du côté de mon papa, c'est différent. Mais eux, ils avaient tout classé, tout était mis au carré, donc il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, du côté de maman, bah, là, on a perdu mamie la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours.
Ouais.
Et tout se fait naturellement. En fait, ils nous ont donné de leur vivant. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à vider l'appartement. Chose qu'on a fait en grande partie le week-end dernier.
Ensemble.
Il n'y a pas eu de bagarre. Oui, oui. Ouais. On était tous les quatre avec maman. Et puis, on a chacun. Enfin, s'il y avait un objet qui nous rappelait quelque chose et que, voilà, et ben, on le prenait. Il n'y a pas eu de bagarre. Tout le monde a eu son petit souvenir. Et puis voilà.
Maître Chauveau, c'est vrai que lorsque les choses se passent ainsi, de façon aussi fluide et confiante et familiale, je dirais, évidemment, ça aide à passer des caps difficiles parce qu'on a le sentiment d'être ensemble et pas confronté à une grande solitude.
Oui, ça, l'élément dialogue, et j'ai entendu la transmission de valeurs, c'est-à-dire que j'ai entendu l'auditrice parler de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu cette éducation-là. Mais au-delà de ça, je pense que la meilleure transmission, finalement, c'est d'arriver à apporter un apaisement, une éducation et un métier à ses enfants, c'est-à-dire de son vivant, voilà, ouais. Apprendre aux enfants de ne rien attendre d'un héritage.
Nicole Prieur, le mot de la fin. Ouais, je comprends. Oui, Nicole Prieur.
À travers ce que nous a dit Géraldine aussi, moi ce que j'entends, c'est quel sens on a envie de donner à notre existence. Effectivement, est-ce qu'on court après des biens? Est-ce qu'on court après une reconnaissance qu'on n'a pas eue? Ou est-ce qu'on dit que la fratrie qui existe et qui est là, de notre vivant et avec laquelle on peut partager, avec laquelle on peut traverser d'autres événements de la vie plus heureux, est-ce que c'est ça qui est primordial? Et à ce moment-là, effectivement, on néglige tel ou tel objet pour donner vraiment du sens et la priorité à ce lien important du fraternel.
Merci à vous deux. Géraldine, merci beaucoup pour votre témoignage et on vous souhaite d'aller mieux dans ces moments difficiles, en tout cas. On a une pensée
merci
pour
beaucoup.
Vous et vos proches. Je vous embrasse, Géraldine. Merci à vous.
Merci également.
Nicole Prieur, je conseille votre livre chez Albin Michel, La famille, l'argent et l'amour. Et puis, on pourra jouer aussi, hein, Nicole, à Ma cassette famille, donc, qui est le premier jeu de société sur l'héritage. Et c'est une super idée parce que c'est de la pédagogie. Et puis, Maître Vincent Chevaux, je rappelle également le réseau national de notaires, Notaire Office, et le réseau notaire au cœur des familles, www.notaire-ncf.fr. Ça en fait des choses. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été nos invités. Merci à tous. On se donne nous rendez-vous demain dès 14h30 sur l'antenne d'RTL. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.
RTL.
On est fait pour s'entendre.